Il est 19h, bonsoir et bienvenue dans l'émission Droit Devant, émission proposée et préparée par les groupes angevins d'Amnesty International sur Radio G 101.5 FM un jeudi sur deux. Merci de nous retrouver pour cette demi-heure consacrée aux droits humains. Pour animer cette émission, Philippe et Sophie, bonsoir à vous deux.
Ravi de vous retrouver.
Bonsoir. Merci Pierre pour la technique.
Bonsoir.
Dans cette émission, nous recevons Jean-Jacques et Anne, membres de l'association AAVAS, l'association d'aide aux victimes d'abus sexuels. On passera également en revue l'actualité et on écoutera deux chroniques. Bien sûr, celle de Céline, que vous connaissez maintenant. Elle nous parlera de la situation des femmes. Mais également, notre nouvelle chronique, c'est celle de nos jeunes militantes de l'antenne jeune d'Amnesty Angers. Bienvenue à tout le monde. Et puis on terminera bien sûr par l'agenda culturel et militant. Mais tout d'abord Sophie, pour ce mois de mars, dans ton éditorial, tu vas nous parler de la Journée internationale des droits des femmes du 8 mars.
En effet, c'est une journée de mobilisation pour rappeler que l'égalité des droits entre les femmes et les hommes est un objectif qui reste à atteindre. Petit rappel historique, cette journée trouve son origine dans les manifestations de femmes au début du XXe siècle, en Europe et aux États-Unis, réclamant les meilleures conditions de travail et le droit de vote. C'est en 1975, lors de l'année internationale de la femme, que l'ONU a commencé à célébrer la Journée internationale des droits des femmes, le 8 mars.
Alors, de quel droit parle-t-on ?
Alors, ces droits comprennent le droit de vivre libre de toute violence et discrimination, d'accéder au meilleur état de santé physique et mentale, le droit à l'éducation et à la propriété, la possibilité de circuler librement, le droit de voter et de travailler. Mais partout dans le monde, de nombreuses femmes et filles sont toujours victimes de discrimination sur la base du sexe et du genre. Les inégalités de genre sous-tendent de nombreux problèmes comme les violences domestiques et sexuelles, les rémunérations plus faibles, le manque d'accès à l'éducation et les soins de santé insuffisants.
Et qu'en est-il des luttes militantes afin de défendre ces droits ?
Depuis de nombreuses années, les mouvements de défense des droits de femmes luttent avec acharnement contre les inégalités, en faisant campagne pour que les lois changent ou en descendant dans la rue pour réclamer le respect de ces droits. De nouveaux mouvements fleurissent à l'ère du numérique, à l'instar de hashtag MeToo, qui met en lumière la fréquence des violences liées au genre et au harcèlement sexuel.
Alors tu disais tout à l'heure, l'une des premières luttes concernant les droits des femmes a été le droit de vote. Alors on en est où aujourd'hui ?
En dépit des évolutions dans certains pays, il reste encore beaucoup d'endroits dans le monde où il est très difficile pour les femmes d'exercer ce droit, comme la Syrie, où les femmes sont exclues de toute participation politique, ou bien au Pakistan, bien que le vote soit un droit constitutionnel. Les femmes ne peuvent pas l'exercer dans certaines régions, car des personnes d'influence, au niveau local, s'appuient sur des coutumes patriarcales pour les empêcher de se rendre aux urnes.
Et le droit de circuler librement ?
Oui, il signifie le droit de se déplacer à sa guise, non seulement dans son pays de résidence, mais également dans d'autres pays. Parfois, les femmes ne sont pas autorisées à avoir leur propre passeport ou peuvent être obligées de demander la permission d'un tuteur de sexe masculin pour voyager comme en Afghanistan.
Alors, qu'en est-il du droit sexuel et reproductif ?
Déjà, nous devons dire que toutes les personnes, quelles qu'elles soient, devraient pouvoir prendre les décisions concernant leur propre corps. Pour les femmes et les filles, cela veut dire plus particulièrement le droit à un accès équitable aux services de santé, notamment à la contraception et à un avortement sûr. Le droit de choisir, si elles le souhaitent, se marier, quand et avec qui. Si elles le souhaitent aussi, avoir des enfants, quand, combien et avec qui.
Et que peux-tu nous dire concernant les violences liées au genre ?
Cela correspond à des actes de violence commis contre les femmes et des personnes LGBTI en raison de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre ou d'autres caractéristiques sexuelles. Citons les violences liées au genre, comme le viol et les autres formes de violences sexuelles, les mutilations génitales féminines, le mariage forcé, la grossesse forcée, l'avortement ou la stérilisation forcée. Au cours de l'histoire, les violences sexuelles ont souvent été utilisées comme armes de guerre en cas de conflit. Les femmes sont plus susceptibles d'être victimes d'agressions sexuelles, notamment de viols et aussi de crimes d'honneur ou de viols correctifs. Les violences faites aux femmes sont de graves violations des droits humains. Rappelons que 31 féminicides ont eu lieu en France depuis le 1er janvier 2023, soit presque un tous les deux jours. Il incombe à l'État de protéger les femmes de ces violences, même des violences domestiques commises dans la sphère privée.
Merci Sophie. Et vous êtes toujours dans Droit Devant sur Radio G 101.5 FM. Nous avons aujourd'hui le grand plaisir de recevoir Jean-Jacques et Anne de l'association AAVAS, donc Association d'aide aux victimes d'abus sexuels. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir.
Bonsoir.
Bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous présenter d'abord votre association ?
Alors, l'AAVAS est née d'une réflexion, il y a environ 30 ans maintenant, de professionnels du terrain qui œuvraient auprès de jeunes filles, de jeunes femmes, accueillis dans des foyers d'hébergement suite à souvent à des ruptures familiales et qui, pour beaucoup, avaient vécu des violences sexuelles. Et disons que les mères de ces jeunes femmes, de ces jeunes filles étaient invitées à venir parler autour de leur situation. Et parmi ces mères, une quantité importante avait été elle-même victime sans que rien n'ait été fait à l'époque. Et il y avait à l'époque un délai de prescription beaucoup plus réduit que maintenant, qui fait qu'il n'y avait plus aucun recours pour elle. Donc ces professionnels se sont dit qu'au moins ce qui pouvait leur être offert, et peut-être à titre de prévention d'une répétition dans la génération suivante, un lieu de parole. Mmh. Donc ces professionnels ont pu créer l'association qui est née le 1er mai 1996, donc bientôt 27 ans maintenant. Alors ces professionnels étaient tous et toutes issus du médico-social, donc il y avait infirmières, éducateurs, éducatrices, assistante de service social et infirmière et psychologue. Donc, on crée cette association avec un dispositif d'accueil en binôme pour toute personne souhaitant venir parler de son histoire alors qu'il n'y avait plus, par exemple, de recours en procédure judiciaire. D'accord. Au départ, l'idée était d'accueillir la parole, ce qui, à l'époque, on n'était pas encore à l'époque de MeToo, de Balance ton porc, il n'y avait pas eu la médiatisation de nombreuses situations dans les différents milieux tels qu'on la connaît actuellement. Et la première année, il y avait juste deux permanences par mois, dans un petit appartement de la rue Saint-Jacques. Le premier et le troisième lundi du mois, il y a dû y avoir entre le 1er mai et le 31 décembre, il y a eu 6 personnes qui sont venues. D'accord. Et on va faire un grand pas dans l'histoire, dans le temps en tout cas, pour dire qu'on est en train de boucler les statistiques 2022 et actuellement on reçoit à peu près 400 personnes, on va dire, par an, entre Angers et Cholet, parce qu'il faut préciser qu'il y a une permanence à Cholet.
D'accord. Mmh.
Oui, j'en profite là, puisque tu mentionnes la permanence à Cholet, je fais partie d'un binôme qui intervient sur Cholet et on reçoit donc toutes les semaines, on a une permanence pour accueillir les Choletais et les personnes de l'agglo, Choletais, Choletaises. Mmh. Hein, oui, voilà. Et si je me souviens bien, enfin dans les chiffres qui avaient été l'an dernier donc donnés à l'Assemblée générale, on devait être à plus de 1700 entretiens l'année dernière, hein, mm-hmm. pour l'année voilà. D'accord. Cette année, je pense que on est en train de voilà mm-hmm. d'affiner un peu tout ça, mais je pense qu'on doit encore être au-delà de mm-hmm. de ces nombres d'entretiens. Donc ça suppose effectivement beaucoup de temps, hein, de voilà, d'autant que on est à deux à chaque fois, et les bénévoles, heureusement il y a un réservoir, je dirais, de bénévoles qui finalement se renouvellent, hein, assez régulièrement d'ailleurs. Et on est une vingtaine, hein, de bénévoles,
voilà. Formidable. D'accord. mais la AAVAS, alors c'est Angevin uniquement,
l'association a son siège à Angers.
Oui.
Je ne crois pas qu'il existe une association identique à la nôtre sur la France, puisqu'on a souvent, on a quelquefois des appels de personnes qui mm-hmm. nous demandent s'il y a d'autres AAVAS ailleurs.
Ah,
non,
d'accord.
Non. Mm-hmm. Il y a d'autres formes effectivement de permanence,
d'écoute,
d'accueil,
ouais.
d'écoute,
mm-hmm. ah,
mais
oui.
pas comme nous. Hein. Mm-hmm. Je veux dire que.
D'accord.
Voilà.
On vient de parler de MeToo. Là, est-ce que vous avez constaté justement depuis quelques années que la parole se libère plus facilement ?
Oui.
Oui,
oui, c'est vrai que oui, bien sûr. Alors, dire qu'il y a davantage d'agressions, enfin en ce moment, bon, on peut pas vraiment affirmer ça. Par contre, que les personnes effectivement viennent parler de ce qui leur est arrivé, ça augmente régulièrement. Et c'est ce qu'on encourage, bien sûr. Hein, il faut que la parole se libère le plus tôt possible.
Oui, parce que certaines personnes parlent après des dizaines d'années de secrets enfouis, c'est ça ?
Oui, on reçoit quelquefois des personnes âgées, hein, qui viennent nous parler de ce qui leur est arrivé quand elles étaient enfants, bien sûr. Oui. Mm-hmm.
Oui, Jean-Jacques. Alors,
si on parle de libérer la parole, moi je dirais que, effectivement, comme vous le signaliez très justement, il y a des personnes qui ont vécu des dizaines d'années avec leur secret, soit il faut savoir aussi qu'une proportion non négligeable des personnes qui s'adressent à l'association avaient pris la parole et n'ont pas été entendues et encore moins écoutées. Spécialement parce qu'on est à peu près à 90% de violences perpétrées dans le milieu familial. D'accord. Ce sont des violences intrafamiliales. Et il y a toutes les... T'es complètement folle, parce que c'est plus souvent des femmes qu'on accueille. Hein. Ce qui n'est pas le cas de... Si on reprend le rapport Sauvé, mais on va peut-être pas voir où c'est là. Mais là, on parle des violences faites aux femmes.
D'accord, hein.
Donc, il y a une grande majorité de femmes, et donc, t'es complètement folle, personne ne te croira, tu vas détruire la famille.
Ah oui,
Tu racontes n'importe quoi.
Une forme de chantage, quoi.
Voilà. Tu vas envoyer ton père en prison, ou ton frère, ou ton oncle, ou ton grand-père. Voilà un petit peu. Mais elles en avaient parlé.
Ah oui.
Alors, la nouveauté, c'est pas, je pense, c'est le constat que je crois qu'on fait dans différentes instances, je ne pense pas qu'il y ait davantage d'agressions actuellement, mais les personnes sont davantage entendues. On voit qu'il y a une grosse amélioration. Il y a encore beaucoup de travail à faire, mais au niveau du suivi des dépôts de plainte, déjà des dépôts de plainte, de l'accueil des personnes au moment du dépôt de plainte, et de la suite de la transmission au parquet. Il y a un documentaire remarquable qui s'appelle « Elle l'a bien cherché », qu'on peut retrouver facilement sous ce titre-là, sur Internet, « Elle l'a bien cherché », et qui traite du dépôt de plainte. C'est un documentaire fait par une documentariste qui s'appelle Laetitia Ounona. Et c'est un reportage qui a été fait sur le commissariat de Nantes, d'ailleurs.
Enfin,
qui suit le dépôt de plainte.
Je ne sais pas si vous avez vu La nuit du 12, c'est un film dont on a beaucoup parlé, qui est extraordinaire, puisqu'il parle justement d'un féminicide, et on a des réflexions au sein du commissariat, genre, ah ben t'as vu comment elle était habillée, ou autre délicatesse.
Ça reste encore, que est-ce ça vous serve de leçon, qu'est-ce que vous avez là à cette heure-là ou un refus de plainte, de toute façon, vous étiez alcoolisé, enfin voilà.
Est-ce que vous travaillez avec d'autres associations?
Oui. Donc, d'une part, l'AAVAS fait partie d'un collectif Prévention Suicide 49, qui est un collectif de 12 associations, où on retrouve en particulier le CIFF, donc c'est le Centre d'information sur les droits des femmes et de la famille, avec qui on travaille en partenariat étroit, parce qu'il n'y a pas de juriste à l'AAVAS.
Ah, d'accord.
Il y a uniquement des professionnels issus du médico-social.
D'accord. Hein.
Anne parlait d'un collectif, enfin d'un groupe d'une vingtaine de bénévoles, mais qui assure tout de même l'équivalent d'un 5 temps plein. Plus 2 psychologues salariés et coordinatrices à mi-temps.
Et vous êtes basé où alors, les locaux
alors,
pour accueillir les gens?
Alors, à Angers, c'est 8 rue Ambroise Paré. Le numéro de téléphone, c'est le 02 41 36 0207. Et aussi le 07 67 19 01 85. Et puis il y a un site qu'on peut retrouver sur Internet.
Oui. Et vous manquiez de bénévoles ou pas?
Disons que pas trop, mais de toute façon il y a des conditions précises, c'est-à-dire être diplômé d'une des professions, des 4 professions que j'ai mentionnées. On a aussi, là actuellement on a des demandes de médecins pour intégrer l'équipe de médecins, voilà. On arrive à peu près à équilibrer entre les ressources bénévoles et...
Simplement là, on a parlé binôme, effectivement, on reçoit toujours à deux. Et dans le binôme, je précise, il y a toujours un ou une psychologue.
D'accord.
Et d'autres personnes... Moi, par exemple, je suis de formation assistante sociale. Donc, il m'arrive de recevoir avec Jean-Jacques, qui lui est psychologue. Et toujours. C'est vrai que c'est une façon de... Et c'est très, très sécurisant, je trouve, le binôme.
D'être à deux, c'est une des conditions, je crois, aussi, de pouvoir entendre beaucoup de choses sans en être trop atteint.
Ah oui, d'accord. En tout cas, merci d'avoir répondu à notre invitation.
Merci beaucoup.
Et bonne continuation.
On se retrouve après une pause musicale.
Écoutez ma chanson bien douce, que Verlaine aurait su mieux faire. Elle se veut discrète et légère, un frisson d'eau sur de la mousse. C'est la complainte de l'épouse de la femme derrière son grillage. Ils la font vivre au Moyen-Âge, que la honte les éclabousse. Quand la femme est grillagée, toutes les femmes sont outragées. Les hommes les ont rejetées dans l'obscurité. Elle ne prend jamais la parole en public, ce n'est pas son rôle. Elle est craintive, elle est soumise, pas question de lui faire la bise. On lui a appris à se soumettre, à ne pas contrarier son maître. Elle n'a droit qu'à quelques murmures, les yeux baissés sur sa couture. Quand la femme est grillagée, toutes les femmes sont outragées. Les hommes les ont rejetés dans l'obscurité. Elles respectent la loi divine qui dit par la bouche de l'homme que sa place est à la cuisine et qu'elle est sa bête de somme. Pas question de faire la savante, il vaut mieux qu'elle soit ignorante. Son époux dit que les études sont contraires à ses servitudes. La femme est grillagée, toutes les femmes sont outragées, les hommes les ont rejetées dans l'obscurité. Jusqu'aux pieds, sa burqa austère est garante de sa décence. Elle prévient la concupiscence des hommes auxquels elle pourrait plaire. Un regard jugé impudique serait mortel pour la captive. Elle pourrait finir brûlée vive, lapidée en place publique. Quand la femme est grillagée, toutes les femmes sont outragées. Les hommes les ont rejetés dans l'obscurité. Jeune femme, larguez les amarres, refusez ces coutumes barbares, dites non au manichéisme, au retour à l'obscurantisme. Jetez ce mouchard à pied triste, né de coutumes esclavagistes, et au lieu de porter ce voile, allez-vous-en, mettez les voiles. Quand la femme est grillagée, toutes les femmes sont outragées. Les hommes les ont rejetés dans l'obscurité.
De retour dans Droit Devant sur Radio G 101.5 FM, vous avez reconnu la voix de Pierre Perret qui chantait La femme grillagée. Et passons maintenant à notre nouvelle chronique. Trop bien. Bonjour Elisa.
Bonjour à tous.
Bonjour.
Alors, qu'est-ce que tu nous proposes ?
Donc, je me présente. J'ai 19 ans. Je suis étudiante actuellement en sciences politiques à Angers. Et comme beaucoup de jeunes aujourd'hui, je me sens plutôt inquiète pour l'avenir des droits humains et de la planète. Et je n'ai qu'une seule envie, agir. C'est pour cela qu'avec des amis, nous avons décidé de nous engager et de créer une antenne jeune Amnesty à Angers. Notre but est de sensibiliser le plus grand nombre aux problématiques contemporaines qui affectent les droits humains, comme par exemple la lutte contre les discriminations, la liberté d'expression, le droit des femmes, comme on en parle aujourd'hui, et bien d'autres sujets passionnants. Pour ce faire, nous souhaitons organiser tout au long de l'année des conférences, ciné-débats et autres activités ludiques afin de rester éveillés quant à l'état des droits humains dans le monde. Si vous souhaitez en savoir plus, rendez-vous sur notre compte Instagram agiamnestyangers et retrouvez-nous prochainement au bar Le Wallabies au boulevard Foch à Angers pour assister à notre première réunion d'information et de recrutement. Le goûter y sera même offert.
Formidable, ah, j'espère super. Que tu viendras régulièrement nous voir pour une nouvelle chronique.
Oui, bien sûr, peut-être pour vous présenter nos nouveaux projets et tout ce qui peut se faire avec nous.
Merci beaucoup, Elisa.
Merci, Elisa.
À très bientôt. Et c'est maintenant l'heure des actualités des droits humains.
Le gouvernement italien, dominé par l'extrême droite, accuse les ONG de faire augmenter par leur action les arrivées de migrants en Italie et ainsi d'encourager les trafiquants. Une nouvelle loi oblige les navires humanitaires à effectuer un seul sauvetage à la fois, ce qui augmente le risque de décès au cours de la traversée de la Méditerranée centrale, considérée comme la route la plus périlleuse au monde. Au moins 62 migrants sont morts récemment dans le naufrage de leur embarcation surchargée au sud de l'Italie. Selon les gardes-côtes, elle transportait environ 120 personnes et se serait brisée en heurtant des rochers tout près de la côte.
Le chef de l'État tunisien, Kais Saied, s'est arrogé les pleins pouvoirs à la faveur d'un coup de force en juillet 2021 et impose désormais un tournant répressif, conservateur et xénophobe des plus préoccupants. Il a fustigé des hordes de migrants clandestins associés à ses yeux à un plan criminel visant à modifier la composition démographique du pays. Les étudiants et les immigrés issus de l'Afrique subsaharienne sont chaque jour victimes d'agressions physiques et verbales à Tunis et dans d'autres centres urbains. Le discours conspirationniste du chef de l'État, aux accents de type « grand remplacement », a libéré un racisme enfoui au tréfonds de la société. Les Tunisiens les plus progressistes avouent leur honte.
Passons maintenant en Iran, où depuis le 4 mars, les empoisonnements en série dans les établissements scolaires réservés aux filles se sont multipliés à une vitesse inquiétante. Des intoxications ont été signalées dans plusieurs centaines d'établissements. Dans ce climat, de nombreuses familles demandent bien évidemment à leurs filles de rester à la maison. Cette série d'événements est perçue comme une vengeance du régime en réaction au soulèvement de la jeunesse consécutif à la mort de Mahsa Amini il y a exactement 6 mois. Les autorités iraniennes dénoncent l'action de supposés ennemis de l'Iran et ou alors font porter la responsabilité aux jeunes filles elles-mêmes qui en sont victimes, sous le prétexte qu'elles tenteraient ainsi de créer le désordre dans leur établissement. Mais bien sûr, personne n'est dupe.
Des colons israéliens ont mené une expédition punitive en toute impunité contre le village palestinien de Ouara après le meurtre de 2 d'entre eux. Le ministre extrémiste chargé des colonies a affirmé qu'Ouara doit être rasé. Un mouvement social massif dénonce depuis 2 mois un projet de réforme de la justice qui vise à libérer l'exécutif du contrôle de la Cour suprême. Fin février, un raid conduit par l'armée israélienne à Naplouse a fait au moins 11 morts et des dizaines de blessés. Il s'agit de l'incursion la plus meurtrière en Cisjordanie depuis 2005 au moins. Depuis le début de l'année, cette guerre qui ne dit pas son nom a coûté la vie à 51 Palestiniens, 9 civils israéliens et une Ukrainienne.
Samedi 25 février, la petite commune de Saint-Brévin-les-Pins, en Loire-Atlantique, a vu défiler d'abord des partisans venus en nombre, 900 environ, du projet d'installation d'un centre d'accueil de demandeurs d'asile. Dans le cortège, on pouvait voir des drapeaux de la CGT, de la Ligue des droits de l'homme, de la CIMAD ou encore d'Emmaüs. Puis, des opposants, au nombre de 300, se sont rassemblés devant la mairie. Les forces de l'ordre ont maintenu les deux groupes à distance dans une ambiance tendue, bien sûr.
Heureusement, il y en avait 900 d'un côté.
Oui.
Allez, c'était il y a un an, le 24 février 2022. Souvenez-vous, les forces militaires russes lançaient une invasion à grande échelle en Ukraine. Un crime d'agression immédiatement dénoncé par Amnesty International. Depuis, des dizaines de milliers de crimes de guerre et d'autres violations du droit international humanitaire ont été commis. Des milliers de civils ont été tués et des 8 millions de personnes ont fui les zones de combat ou leur pays. Les pertes de l'armée russe sont estimées entre 100 000 et 200 000 morts ou blessés, avec un bilan probablement similaire côté ukrainien. Un bilan terrifiant. La secrétaire générale d'Amnesty a déclaré, je cite, que les victimes méritent d'obtenir justice et réparation pour tout ce qu'elles ont enduré. La communauté internationale doit se montrer déterminée à aller jusqu'au bout pour que justice soit rendue. Et c'est l'heure maintenant d'écouter la fameuse chronique de Céline.
Bonsoir Valérie. Nous sommes au mois de mars et le 8 mars, c'était la Journée internationale des droits des femmes. Logique donc que cette chronique parle des femmes. Je voulais, parce qu'on l'oublie, parce qu'on s'habitue aussi, la commencer par l'évocation du voyage de celles que l'on retrouve ensuite à la rue, dans nos rues en France. Ce témoignage est un extrait du recueil de paroles de femmes de l'association SOS Méditerranée. C'est une partie du témoignage de Zaineb, 19 ans, malienne, seule femme survivante d'une embarcation où 90 personnes ont péri. Dès le départ, les gens ont dit qu'on ne pouvait pas partir avec ce bateau parce que le moteur faisait un drôle de bruit et que l'eau était déjà dans le fond. On les a battus et jetés dedans. Les vagues sont devenues fortes, de plus en plus fortes. Les gens étaient affolés, ils criaient, ils paniquaient, ils s'agrippaient les uns aux autres. Dans ces embarcations, les femmes et les enfants sont placés au fond. Cela les expose à l'étouffement, aux brûlures, avec le mélange de l'eau de mer et du carburant, à la noyade en cas de panique. Comme Zaineb, tellement d'autres ont traversé l'enfer pour arriver jusqu'à nous et pour y découvrir un accueil indigne et la rue. Combien en avons-nous croisé au chemin de traverse de ces femmes fières et nobles qui connaissaient les gestes de la survie pour continuer d'exister ? Sarah qui protégera Adonai soir après soir, alors qu'ils étaient transbahutés entre le 115 et les nombreux jokers. Sarah, toujours en veille, prenant du temps pour elle grâce à une douche quand le petit garçon prenait son petit déjeuner avec la famille qui les accueillait. Victoria qui gardera son vernis à ongles impeccable pour se sentir belle, même dans la rue. Claudia, Amina, Myriam, toujours toutes les trois, toujours joyeuses, refusant un lit pour l'une si les autres n'avaient pas de place au 115, solidaires et frontément. À toutes celles qui apprendront les rudiments de français rapidement pour pouvoir s'en sortir, trouver à manger, un endroit pour dormir, des vêtements chauds, nommer les mots des enfants, les leurs. À Jenaba, qui un soir a recadré un groupe d'hommes qui lui demandait d'être plus discrète. « Vous ne m'imposerez rien », leur a-t-elle dit. « Moi aussi, j'ai fait comme vous, le voyage et la traversée. » Enfin, à celle qui, un soir tard, est arrivée à Rouchy du haut de ses 4 jours. Oui, 4 jours, tu te rappelles, Valérie ? Parce qu'on avait dit à sa maman que tout allait bien. À toutes celles-là, je dédie cette chronique. Il est long, beaucoup trop long, le combat des femmes pour vivre libres. Celles de nos nuits de veille sont des guerrières. Elles sont nos sœurs. Elles nous obligent. Nous nous battrons.
Merci Céline. Oui, je m'en souviens de ce tout petit bébé de 4 jours qui s'est retrouvé à la rue. Mmh. Comment l'oublier ? Allez, nous sommes toujours sur Radio G 101.5 FM dans l'émission Droit Devant et c'est le temps de notre agenda militant et culturel.
Vendredi 17 mars à 18h, Geneviève Pruvost, sociologue du travail et du genre, au Centre d'études des mouvements sociaux, présentera son dernier livre, Quotidien politique, féminisme, écologie et subsistance, dans le carré Maine de la Bibliothèque universitaire Saint-Serge.
Le samedi 18 mars, allez, on rigole un peu avec un concert de chansons humoristiques par Romain Chupin à Chalonne-sur-Loire en soutien à l'association Pour Toi, TOIT, qui œuvre pour l'accueil de migrants sur le territoire Loire-Layon.
Dimanche 19 mars à 15h au centre Jacques Tati, à la mémoire de la poétesse Laïcia Oukrenka, voyage musical sur ses écrits et biographies.
Le samedi 1er avril, l'association France-Palestine Solidarité organise les 8 heures pour la Palestine au centre Marcel Menet à Angers à partir de 14h30. À noter, une conférence d'Amnesty International à 17h sur l'apartheid israélien envers le peuple palestinien.
Et très certainement, le samedi 25 mars, rassemblement à Angers contre le projet de loi Darmanin, asile et immigration à vérifier sur vos réseaux militants habituels. Et il est presque 19h30, le temps de conclure cette émission et de remercier Jean-Jacques et Anne pour leur venue, mais également Elisa et Jade. Allez, d'ici là, n'hésitez pas à réécouter cette émission en replay sur le site www.radio-g.fr. Vous pouvez également nous rendre visite sur Facebook à amnesty.angers. À très bientôt sur les ondes de Radio G. Excellente année militante.
Et à très bientôt. Bonne soirée à toutes et à tous.
À bientôt.
Soirée.